There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Déjà, dans la vie d'un start-upper, tout va bien, tout va mal, c'est toute ta vie en fait. L'ascenseur émotionnel, du matin au soir, tu peux passer par toutes les émotions. Et dans une vente, tout ça est très accéléré. Donc en une heure, tout va bien, tout va mal, t'as un deal, t'as plus de deal, la condition, elle est deal breaker. T'es vraiment dans tous tes états.
Bienvenue dans Tech Off, une émission proposée par Les Échos qui va à la rencontre des femmes et des hommes à l'origine des startups qui ont bousculé l'économie. Bonjour, je suis Guillaume Brageras et ce matin je suis à Cassis, dans une maison non loin du port de Plaisance. Séverine Grégoire m'accueille chez elle quelques minutes après avoir déposé ses enfants à l'école. Malgré la revente de ces deux startups, son emploi du temps qu'elle partage entre le sud de la France et Paris reste très soutenu. Lorsqu'elle a 25 ans, Séverine Grégoire lance Mon Showroom avec sa meilleure amie. Personne ne croit vraiment alors en elle. Loin du milieu parisien de la mode, sans formation tech, elles imposent pourtant très rapidement leur marque comme l'un des sites incontournables du e-commerce français, au point de se faire racheter par le groupe Casino en 2012. Elle aurait pu s'arrêter là, profiter, voyager, s'inventer une autre vie, mais l'entrepreneuriat, qu'elle compare à un shoot d'adrénaline, la rattrape. Avec son amie, elle lance MedDoctor, une plateforme de télémédecine dont elle vient de céder la majorité des parts.
Quand on s'est lancé en 2015, c'était un peu l'inconnu en fait, la télémédecine, parce que tout le monde en parlait depuis un petit moment déjà, mais c'était vraiment pas concret. Et moi, je pense que c'était vraiment le bon time to market pour démarrer, parce qu'avant de se lancer officiellement, déjà on était parti d'un constat d'usage, et donc on se disait qu'il y avait un vrai besoin d'usage, parce que tout le monde allait chercher de l'information santé en ligne, hein, tu vois le succès des forums. Et finalement, il y avait vraiment un problème de fiabilité de l'information sur certains sites. Et ensuite, on a rencontré énormément de médecins avant de se lancer, parce qu'on voulait comprendre quels étaient leurs besoins et les usages, comment ça se passait dans un cabinet à l'heure actuelle. Mmh. Et eux nous disaient clairement qu'ils réalisaient déjà des téléconsultations dans leur cabinet. Mais ils le font, enfin, c'est pas vraiment des téléconsultations, mais ils consultent à distance, puisqu'ils ont leurs clients, leurs patients par SMS, par mail, par téléphone. Ils sont de plus en plus contactés par leurs propres patients via ces moyens-là. Mais c'est pas sécurisé, ils peuvent pas monétiser. Donc en fait, avec Chloé, donc avec mon associé, on s'est dit, ok, en fait, on a deux usages, on a vraiment deux besoins, et on a voulu faire rencontrer ces deux besoins via une plateforme digitale. Alors, c'est sûr qu'on sentait qu'il y avait un truc, mais après, comme c'était très régulé et très encadré, c'était un peu l'inconnu. Et c'est vrai que là, on voit, en 3 ans, ça a juste explosé, c'est vraiment devenu le sujet actuel, et du coup, c'est juste génial, parce que ça nous a porté, et ça porte la croissance de MedDoctor aujourd'hui.
Il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui sur la plateforme ?
Alors, aujourd'hui, en fait, on a un business B2C, puisqu'au départ, on est parti en B2C sur du téléconseil médical, et on a un business B2B2C, qu'on déploie avec donc des assureurs et des mutuelles, et ça, c'est un service de téléconsultation médicale, avec la possibilité de délivrer des ordonnances à distance. Et donc, sur la partie B2B, aujourd'hui, le service est déployé auprès de 15 millions de personnes protégées. Donc, ce qui est énorme, puisqu'on a signé de très gros contrats. Mmh. Et en plus, là, comme on vient de se faire acheter par le groupe, ils nous ont apporté une première partie de leurs adhérents. Et donc, d'ici l'année prochaine, on va déployer. Notre objectif sur 2019, c'est d'atteindre les plus de 20 millions de personnes protégées via le service. Après, la distinction à faire, c'est OK, le service peut être... Enfin, on touche 15 millions de personnes. Après, maintenant, il faut qu'on déploie l'usage. Et nous, tout notre enjeu, il est là. Mmh. Parce qu'aujourd'hui... Comme on déploie le service avec des assureurs et des mutuelles, le problème, c'est que ces assureurs et ces mutuelles doivent communiquer auprès de leurs adhérents ou de leurs bénéficiaires pour leur dire « je vous offre ce service ». Et nous, tout l'enjeu, il est là, et c'est la complexité du modèle, parce que les assureurs, les mutuelles sont des grosses machines, et donc du coup, nous, on arrive, on tape à la porte, on dit « voilà, on voudrait bien vous aider sur la partie com, marketing, on vous accompagne ». Voilà, donc c'est aujourd'hui, le travail commence ici, on a déployé donc en janvier de cette année, en janvier 2018, le service auprès de tous nos partenaires. L'année dernière, c'était la phase où on a onboardé toutes les mutuelles. Là, on déploie. Et maintenant, l'enjeu, il est vraiment de transformer l'essai et vraiment de déployer l'usage.
D'accord. Donc, malgré le rachat, on y reviendra tout à l'heure, c'est pas forcément aussi évident que ça que de déployer avec les moyens du nouvel actionnaire.
Le sujet, c'est que c'est même pas une histoire de moyens. C'est même pas une histoire de moyens financiers, en fait, le fait de déployer. C'est vraiment des assureurs, des mutuelles, ils ont une roadmap en com, en marketing, ils ont plein de choses à dire à leurs bénéficiaires. Et du coup, nous, il faut qu'on s'insère là-dedans. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, c'est un sujet à la mode, entre guillemets. Et du coup, on va avoir plus de facilité. Le groupe, du coup, nous aide pour le coup, puisqu'ils ont fait une acquisition, du coup, il faut capitaliser dessus. Donc ça, ils sont très ouverts dessus. C'est juste que c'est un peu plus long quand on fait de la com B2C, on teste plein de choses, plein de leviers. On le fait. Alors c'est marrant parce que du coup, on a à l'intérieur de la boîte, on travaille à deux vitesses, quoi. On a le B2C où on peut tester plein de leviers, on va vite. Et le B2B, il faut faire avec les partenaires.
Et aujourd'hui, c'est davantage des consommateurs en direct qui utilisent la plateforme?
Jusqu'à la fin de l'année dernière, on était principalement en B2C. Et là, vraiment, on commence pas à pivoter, mais avoir les deux usages qui commencent à vivre l'un à côté de l'autre.
D'accord. Alors moi, je me demandais sur est-ce que vous n'êtes pas, votre associé et toi, issus du monde médical? Comment se passe la partie d'agrément, toute la partie légale? Comment on se plonge là-dedans pour obtenir tout ça, quoi?
Ouais, c'est vrai que nous, du coup, on sort du digital, puisqu'on avait déjà eu notre première start-up. Alors, du coup, c'était dans la mode. Alors, tu vois, le médical et la mode, des fois, comme ça, a priori, ça fait pas bon ménage. Donc, quand on est arrivé, on savait que le côté positif, c'était toute notre expérience et notre expertise dans le digital. Mais d'un autre côté, ça nous desservait vachement, en fait, puisqu'on sortait pas du médical. Et c'est vrai que dans le secteur médical, les médecins parlent aux médecins. Donc du coup, dès le début, on était très consciente de ça. Sur la phase de démarrage, on s'est dit qu'on allait s'associer avec un médecin. Et du coup, on a commencé à chercher. Et en fait, on s'est dit, on a vu quelques médecins qui étaient prêts à s'associer avec nous. Et on s'est dit, non, en fait, c'est pas possible. Parce que l'association, ça se fait pas. On s'est dit que l'association, c'était pas cette histoire-là. Enfin, nous, c'était pas notre histoire. On se voyait pas, même si les mecs qu'on a rencontrés étaient sympas, on se voyait pas lui dire, ouais, toi, tiens, t'es sympa, viens avec nous. Parce qu'avec Chloé, ça fait 10 ans qu'on est associés, c'est ma meilleure amie, on a un mode de fonctionnement qui est rodé. Et du coup, c'était compliqué pour nous de se dire qu'on allait faire rentrer. Alors là, sur mes docteurs, on est associé avec Nicolas, qui est le mari de Chloé, qui était déjà chez mon showroom. Donc on a notre fonctionnement à trois, on est hyper complémentaires tous les trois. C'était compliqué de faire rentrer quelqu'un. Donc pour pallier à ça, on a créé dès le début un comité médical de 5 médecins qui nous ont aidés sur toutes les phases du projet, et notamment sur la partie agrément et relations avec les instances ordinales, où là, ce sont eux qui étaient en première ligne, parce qu'on a bien senti qu'il y avait un vrai frein, une vraie réticence à travailler avec nous, parce que comme on est issu du commerce, c'était très sale de faire du commerce dans le médical. Voilà. Alors que nous, vraiment, c'est vraiment une approche qui est très particulière. Ils ont leur déontologie qui est... Mais nous, c'était l'idée, oui, effectivement, c'est de monétiser, mais c'est vraiment d'apporter un outil aujourd'hui aux médecins, parce que aujourd'hui, répondre à un patient par SMS ou par mail, normalement, ils n'ont pas le droit. La déontologie leur interdit, les tuyaux sont pas sécurisés. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent répondre, qu'ils puissent monétiser aussi le temps qui passe, tu vois. Quand on descend dans certaines spécialités, on a vu beaucoup de médecins. Par exemple, sur les pédiatres, la pédiatrie, les pédiatres nous disaient qu'ils passent entre une heure et demie par jour au téléphone avec les jeunes mamans pour les rappeler, pour faire le suivi, pour donner des conseils, pour rassurer. Et si tu veux, ça fait partie de leur métier, ça fait partie dans la continuité des soins, mais ça commence à poser un vrai problème quand c'est autant de temps.
Et les investisseurs vous ont pas poussé non plus dans cette direction est-ce qu'ils ont été moteurs sur le fait d'encadrer cette aventure avec des médecins ou...
Alors, nous on a levé des fonds très tôt, donc avec Partech et Omnes. Non, parce qu'en fait on était déjà structuré quand on est allé les voir, on avait déjà le comité médical qui était constitué, parce qu'ils nous ont aidés même dans le cahier des charges du site. D'accord. Dans la façon dont on allait parler médecine, nous on savait pas. Et du coup, on a constitué ce comité vraiment sur la phase de démarrage. Du coup, on était déjà structurés, ça les a vachement rassurés. Ils ont échangé avec eux pour justement comprendre comment ils nous aidaient, quel était l'intérêt, quelles étaient les difficultés. Enfin voilà, c'était.
Donc, ni Chloé ni toi, vous avez été en confrontation ou en face à face avec les instances.
Alors oui, on est allé la première fois, nous sommes allés au Conseil de l'Ordre. C'était particulier parce que du coup, ils nous ont clairement fait comprendre. Il m'a dit, la personne qui s'occupe, qui est en charge de la télémédecine au Conseil de l'Ordre m'a dit, vous savez, Madame Grégoire, ici, c'est pas strass et paillettes, hein. Je lui ai dit, oui, j'en suis bien conscient, mais bon, ma vie n'est pas que séance photo et défilé, hein, voilà. Donc, si j'ai choisi, ça, c'était un vrai choix, déjà de relancer une start-up et dans la médecine, j'avais bien compris que j'avais changé d'univers, quoi. Et du coup, si tu veux, il m'a dit, vous pouvez y arriver, mais la route est longue et sinueuse. D'accord. Et du coup, j'en étais consciente et je me suis dit, voilà, maintenant, il a posé, voilà, il fallait qu'il nous connaisse parce qu'on était les porteurs du projet. Et une fois qu'il nous avait identifiés, il fallait aussi qu'il comprenne qu'on était accompagnés par des médecins et des médecins qui ont pignon sur rue, qui connaissent depuis longtemps. Et du coup, voilà, maintenant, ce sont les médecins, les membres de notre comité qui sont en lien avec eux. Après, sur la partie agrément, vraiment, en fait, si tu veux, c'est pas le Conseil de l'Ordre des médecins qui délivre les agréments, ce sont les ARS, les agences régionales de santé. Là, si tu veux, c'est la partie administrative. Donc, du coup, c'était plutôt moi qui suis en interface avec eux, parce que là, clairement, t'as un cahier des charges. Voilà, il faut monter un dossier, c'est comme si tu réponds à un gros appel d'offres, en fait. Il faut structurer. Donc, tu as la partie ARS et ensuite, tu as la partie CNIL, où on a eu une autorisation de la CNIL. Là, c'était la partie la plus sport, puisqu'en fait, ils ont mis quasiment 18 mois pour nous donner une réponse. Et c'était horrible.
Dans la vie d'une start-up, c'est mortel.
Exactement. Alors, tu vois, l'ARS en était très conscient, parce que moi, mon inquiétude, quand je suis allée les voir, c'était la longueur administrative de l'ARS. Et en fait, l'ARS, c'est une structure qui est vraiment organisée pour traiter déjà ce type de dossier. Donc, ça allait très vite. Et on a dû attendre l'autorisation de la CNIL. Et là, je crois que j'étais dépitée. Chloé me disait, mais bien, on y va, on attend en bas de l'immeuble tous les jours. Et ça se passait pas comme ça. Je n'avais pas d'interlocuteur identifié et identifiable. Tu es dans une espèce de file d'attente. Et du coup, il faut appeler genre 5 minutes avant l'heure d'ouverture du standard pour être le premier dans la file d'attente. Enfin, c'est mythique, mais du coup, c'était une vraie lourdeur.
Ouais, c'est une anti-startup.
Et une fois qu'on a eu notre autorisation, donc au bout de ces 18 mois, 2 mois après, ils ont changé le process et c'était juste déclaratif et ils donnaient plus d'autorisation. Et là, je me suis dit, bon, mais du coup, je trouve que c'est valorisant de dire, non, je n'ai pas juste fait une déclaration à la CNIL, j'ai obtenu l'autorisation de la CNIL. Donc, ça veut dire que, voilà, on a répondu, une fois, ils nous ont envoyé un document de 20 pages, donc avec 20 questions, il fallait tout justifier sur l'utilisation des données, la façon dont on fonctionnait, enfin, c'était hyper complexe. Et, mais voilà, nous l'avons fait, j'ai mon autorisation.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de chatbots, d'intelligence artificielle, et pour autant, vous et Chloé, vous avez choisi d'avoir des docteurs qui répondent en direct. Est-ce que c'est un choix délibéré, évidemment, mais pourquoi? Et est-ce que vous pouvez imaginer un jour développer un peu d'intelligence artificielle autour de ce service?
Alors, c'était un vrai choix, puisque dès le démarrage, un des médecins avec qui on aurait aimé s'associer développait un chatbot avec une intelligence artificielle. Et du coup, on s'était dit que c'était génial pour en expérience utilisateur, en tout cas, d'arriver sur le site, de pouvoir poser des questions sur le site, qu'un bot avec une intelligence artificielle puisse te répondre. Et ensuite, en deuxième rideau, qu'un médecin puisse te répondre réellement. Et en fait, rapidement, quand justement on est allé au Conseil de l'Ordre et qu'on a commencé à voir les réactions, ou même les réactions des syndicats de médecins, parce qu'ils sont aussi ils sont syndiqués, et ils étaient assez réfractaires à un projet tel que Medoctor, on s'est dit que c'était pas la bonne approche, et que en fait il fallait plutôt montrer patte blanche, tu vois, en fait, parce que le but c'était vraiment pas de remplacer, tu vois, ils avaient ce traumatisme avec Uber, où Uber est venu remplacer, remplacer le métier traditionnel de taxi. Ils avaient l'impression qu'on allait remplacer les médecins. Et nous, c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. Tu vois, on voulait vraiment en apporter une brique digitale à ce qui se passait déjà dans la réalité. Du coup, on s'est dit que c'était pas la bonne approche et on insiste sur notre communication en disant justement que ce sont des vrais médecins. Il y a une, même si la relation est digitale, c'est une relation d'homme à homme. Et voilà, donc on a vite changé de cap sur la phase de démarrage, mais on s'intéresse quand même à l'intelligence artificielle. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a certains de nos concurrents qui utilisent cette brique d'intelligence artificielle comme on voulait le faire, donc sur les premières questions qui sont posées sur le site. Donc on regarde et on ne s'interdit pas de plugger une brique d'intelligence artificielle dans les mois à venir.
D'accord.
Voilà. On regarde ça en tout cas de très près. C'est très intéressant, c'est hyper bluffant dans certains cas.
Ça marche bien.
Ça marche très bien.
Et combien de médecins aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a quasiment 350 médecins.
D'accord.
On a des généralistes et des spécialistes. Et on essaie d'avoir de plus en plus de spécialistes parce qu'on a quand même 80% des questions qui sont posées sur le site qui portent sur des spécialités.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a une réelle difficulté d'accès aux spécialistes. Mmh. Au final, quand tu veux joindre ton médecin traitant, ton médecin généraliste, c'est assez facile. Souvent, c'est la personne qui joue le jeu de la proximité. T'as son portable, t'as les coordonnées de sa secrétaire, donc c'est assez facile. Un spécialiste, aujourd'hui, dans certaines spécialités, en dermato par exemple, t'as des délais de prise de rendez-vous qui s'allongent, certaines zones où vraiment t'as pas de spécialiste. Donc on voit bien que la demande est là et on facilite l'accès à ces spécialistes-là.
Et comment tu les choisis, ces médecins, justement ? Est-ce que c'est facile de les convaincre ? Est-ce qu'il y a une typologie
Alors, au final, on est un peu marketplace. On est à l'interface entre les utilisateurs et les médecins. Donc, on se disait qu'on allait avoir un sujet sur le recrutement des médecins. Et en fait, aujourd'hui, ils sont tous venus à nous. Et on a même freiné l'inscription des médecins parce que ça ne servait à rien d'avoir un... Comme nous, le service est immédiat. Tu sais, tu te connectes, tu poses une question et les médecins, ils sont connectés en temps réel sur la plateforme et ils te répondent immédiatement. Si on avait trop de médecins inscrits sur la plateforme, on perdait en réactivité. Puisque du coup, aujourd'hui, on n'avait pas le flux nécessaire pour nourrir plus de médecins. Donc, on est très vigilant à faire grossir nos deux communautés en même temps pour que les médecins puissent absorber le flux question de notre communauté utilisateur. Donc, du coup, aujourd'hui, on n'a pas eu de sujet sur le recrutement des médecins. Après, il y a une phase quand même de qualification des médecins. Donc, ils se préinscrivent sur la plateforme. Et ensuite, il y a toute la partie administrative que mon équipe gère. Et tu as la partie médicale où ils s'entretiennent avec deux personnes de notre comité scientifique qui sont dédiées à l'animation de la communauté de médecins.
D'accord. Donc, t'as pas eu de retour de flamme, justement, des syndicats de médecins ? Peut-être tu me le disais un peu, mais est-ce que tu te souviens avoir eu des messages un peu...
Alors, il y a deux catégories. Il y a plusieurs syndicats de médecins en France. Alors, il y a certains syndicats qui sont... réfractaires de base au principe, et il y en a d'autres au contraire qui sont plutôt pour ça s'est très bien passé avec eux parce que justement on leur a expliqué la façon dont on fonctionnait et aujourd'hui ils sont rassurés parce qu'on n'est pas là pour casser le parcours de soins, on n'est pas là pour remplacer les médecins, et ils ont bien compris de l'utilité de l'outil digital dans leur pratique quotidienne. Donc du coup, voilà, ils voient que nous, notre intérêt, c'était vraiment de s'installer long terme chez les médecins et pas de... Voilà, c'est un outil qui est ultra utile pour eux. Donc voilà, ils ont bien compris qu'on était dans cette mouvance-là et ça les a plutôt rassurés.
Et vous n'avez pas des relations avec le ministère de la Santé, justement, pour... Est-ce qu'ils vous suivent un peu?
Alors,
pour voir les usages qui décollent?
On les a vus plusieurs fois parce que, si tu veux, pour faire de la télémédecine en France, nous au début on faisait du téléconseil médical, et pour faire de la téléconsultation, donc c'est régi par la loi qui encadre la télémédecine. Et en fait, il y a deux solutions en France pour pouvoir faire de la téléconsultation. Soit tu contractualises avec une agence régionale de santé, donc c'est le parcours qu'on a choisi. Soit il y a un programme qui est dicté par le ministère.
D'accord.
Et donc, nous, on était allés les voir dans ce cadre-là. Et si tu veux, aujourd'hui, ils avaient mis en place des choses dans la téléconsultation qui est déjà prise en charge par la Sécurité sociale, en fait, mais dans le cadre d'expérimentation, uniquement sur des maladies bien spécifiques. Nous, on aurait aimé faire une expérimentation avec eux et un peu élargir. C'était très compliqué. En clair, ils nous ont un peu orientés sur les ARS parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Ce qui est un peu paradoxal parce que si tu veux, aujourd'hui, j'ai contractualisé avec l'ARS Île-de-France. Donc, j'ai un contrat avec l'ARS de France pour faire de la téléconsultation. C'est valable sur tout le territoire France. Donc, tu vois, cette approche d'aller voir une agence régionale de santé qui est là pour organiser les soins de façon régionale sur un outil digital où il n'y a pas de barrière, ni nationale, ni internationale, c'est un peu paradoxal. Mmh. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, donc on le suit. Mais clairement, je pense que ça va devoir changer.
Mmh. Et tu parles d'international. C'est vrai que dans ces jeunes pousses et ces pépites un peu... autour de la médecine, on parle souvent de Doctolib, qui est un des premiers aiguillons, on va dire, donc qui croit à l'international très fortement. Est-ce que c'est possible pour mes docteurs?
Alors, c'est possible, mais pas sur du court terme.
Ouais.
Parce que nous, la valeur du service, elle repose sur les médecins. Mmh. D'accord? Donc, aujourd'hui, déployer sur un pays francophone, j'aurais aucune difficulté. D'ailleurs, on va s'appuyer sur le groupe qui est assez présent en Afrique du Nord, par exemple. Ça, il n'y a aucun souci. Le sujet, il vient quand on change de langue. Parce que j'avais un partenaire qui m'avait demandé « Oui, est-ce que tes médecins sont capables d'assurer une téléconsultation en anglais ?» Hein, j'ai fait un sondage auprès de mes médecins. Donc, j'ai 50% de mes médecins qui se déclarent capables de faire une téléconsultation en anglais. Mais la différence entre l'anglais touristique et l'anglais médical, il est quand même large. On parle de médecins, on parle de médecine. Donc, c'est des sujets qui peuvent être lourds et lourds de conséquences. Et moi, sincèrement, je me sens pas du tout de prendre cette responsabilité aujourd'hui. La seule façon dont on pourrait faire, c'est de s'appuyer sur une équipe de médecins locaux. Voilà. Et donc, ça, il faut qu'on identifie les partenaires qui sont capables de nous accompagner là-dedans. Mais en tout cas, ça se fera donc par une implantation locale du service avec une équipe de médecins du pays en question. Bah, je pense que c'est la seule façon de fonctionner parce que alors moi aujourd'hui je peux opérer partout en France, tu vois, j'ai des expats, j'ai des gens qui partent en vacances, mais ce sont des Français qui vont solliciter des médecins français parce que c'est rassurant quand tu es à l'étranger d'échanger avec un médecin français. Mais un Chinois qui voudrait, ou même un Chinois à Paris, tu vois, qui veut utiliser le service, moi, mes médecins, si j'en ai un qui parle chinois, mais voilà, qui se trompe dans le vocabulaire utilisé, sincèrement, c'est vraiment, c'est borderline là pour le coup. Ouais. Tu vois, c'est pas comme Doctolib où c'est de la prise de rendez-vous physique.
Ouais,
tu vois, c'est pas la même approche.
Et du coup, t'as une roadmap là-dessus? Tu sais à peu près à quelle échéance
Clairement, c'est pas dans ma roadmap de cette année.
D'accord.
Ce sera plutôt sur du 2019-2020. Quoi.
Et ça pourrait être par de l'acquisition
Soit par de l'acquisition, soit par des partenariats, soit une JV ou des partenariats assez renforcés avec par exemple des assisteurs. Internationaux. Tous les assureurs ont des assisteurs internationaux qui travaillent déjà avec des médecins locaux. Donc voilà, on privilégie plutôt cette approche-là.
D'accord. Donc, il y aura une idée sur le pays éventuellement
Non, pas pour l'instant. Vraiment, pour l'instant, on est ouvert à tout. On a eu déjà des approches, mais voilà, pour l'instant, c'était juste. Comme c'était pas dans ma roadmap, on a vraiment écarté ça pour rester focus sur ce qu'on doit faire.
Combien de temps encore tu vas rester sur les docteurs parce que le groupe VIV a pris 61% au départ, c'est
j'ai une transition de 2 ans.
Transition de 2 ans, d'accord. Et tu penses que ça sera suffisant pour l'amener là où tu...
Mais écoute, en tout cas, moi, c'est suffisant pour faire le job que j'ai envie de faire. Tu vois, la raison pour laquelle j'ai relancé une start-up, c'est parce que j'adore les phases de lancement. Je trouve que c'est très excitant de repartir de zéro, de tout repenser, etc. Moi, c'est la phase sur les boîtes qui me plaît le plus. Et du coup, voilà, je me sens à l'aise. On a commencé mes docteurs en 2015. Voilà, dans 2 ans, mes docteurs sera bien déployé. Je vois déjà le chemin qu'on a fait en quasiment 3 ans. Ça allait très vite, beaucoup plus vite que chez mon showroom d'ailleurs. C'est assez marrant. Et ouais, je pense que ce sera bien. Et l'objectif, c'est quand même de mettre en place toutes les synergies avec le groupe et de s'appuyer, c'est vraiment sur la puissance du groupe. On a la chance d'avoir été racheté par le plus gros groupe mutualiste français. Donc déjà, ils sont puissants en nombre d'adhérents. Ils sont puissants, à l'international, ils sont déjà présents. Et on a plein de choses à faire parce qu'en fait, l'idée avec eux, c'est pas uniquement de déployer la téléconsultation. On a une trajectoire qu'on a définie ensemble. Qui est beaucoup plus large et qui porte sur la télémédecine, tu vois. Aujourd'hui, ils sont propriétaires d'établissements de soins. Donc demain, on déploiera aussi des solutions en télé-expertise avec ces établissements de soins. Donc on travaille aussi sur tous ces sujets parallèles, en fait.
D'accord. Et t'as déjà des projets en tête?
Ben, notamment, voilà, donc, ça.
Enfin, je veux dire, pour l'après.
Ah, pour l'après mes docteurs? Ouais. Non, sincèrement, pas pour l'instant. Clairement, je me pose beaucoup de questions en ce moment.
Ouais.
Je suis pas sûre de vouloir repartir, pour le coup. De zéro, tu vois, de remonter, de piloter moi-même une start-up. Alors, soit, je suis à l'opportunité, tu vois, rencontrer des projets, je sais pas, ça, je peux pas te dire si je vais rencontrer un super entrepreneur qui va me proposer un projet et qui va vouloir que je vienne avec lui. En tout cas, la phase d'accompagnement des start-up me plaît énormément. Je rencontre énormément de start-up et voilà, je réfléchis à ces formes d'accompagnement et à ce que je pourrais leur apporter. Pour l'instant, je suis sur ça.
D'accord. Et lorsque tu as lancé mes docteurs, c'était juste après la vente de mon showroom.
Ouais. Mais tout de suite après.
Genre tout de suite après.
Ouais.
Pourtant, tu avais gagné pas mal d'argent avec, avec ton associé. On parle de 40 millions. Enfin bon, après, je crois que les chiffres sont...
Confidentiels.
Confidentiels, donc voilà, tu ne me confirmeras pas, j'imagine. En tout cas, une belle somme d'argent. Et la première question que je pose à chaque fois aux entrepreneurs que je rencontre, c'est pourquoi vous n'avez pas pris un peu plus de temps pour pour réfléchir, pour faire d'autres choses.
Ouais. Et en fait, je crois que c'est assez commun à pas mal d'entrepreneurs. Clairement, quand t'es, alors, mon showroom, ça a été 8 ans de ma vie, 8 ans intense, hein, quasi 24-24, parce que tu le vis quand t'es entrepreneur, mais tu peux pas rentrer chez toi et te déconnecter. Donc, ça a été très intense. Donc, je m'étais toujours dit, ah oui, mais quand j'arrêterai mon showroom, j'avais une liste de bouquins à lire, j'avais envie de faire plein de choses. Et en même temps, j'avais un peu la peur du vide. Mais clairement, la peur de pas savoir quoi faire, de m'ennuyer, de tourner en rond. Et de me dire que si je m'arrêtais sur une trop longue période, j'aurais pas la force de recommencer après. Mmh. Et au-delà de ça, quand tu te relances immédiatement, tu bénéficies aussi de tout ton réseau, le marché t'attend un peu, tu vois. Après, voilà, si je m'étais arrêtée 2 ans, je me disais oui, mais du coup, les gens m'auront oublié. Et voilà. Et il y avait un peu ça, tu vois. Il y a ça et aussi, l'envie, ce qui après ça c'était un sujet qui était plus personnel, l'envie de te prouver que tu peux recommencer, que c'était pas un accident, que t'as eu de la chance mais pas que. Et après ça c'est une question entre toi et toi, hein, donc et c'est assez complexe en fait comme mécanisme, tu vois. Il y a des gens qui sont pas du tout comme ça, mais moi vraiment j'avais tous ces sujets là en même temps. Et comme après avec Chloé on avait vraiment identifié ce sujet, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'en fait, on était à Londres dans un taxi. Et en fait, on a, comme tu vois, je peux parler à un mur, hein, je parle très facilement. Donc, on parlait avec le chauffeur de taxi et qui nous dit, mais en fait, moi, je suis pas chauffeur de taxi, j'ai une start-up. Et il avait une start-up dans la médecine. Et du coup, en parlant avec lui, c'était assez génial ce qu'il faisait. On s'est dit, mais ouais, y a vraiment un truc à faire sur la médecine. Et c'est comme ça qu'après, on a commencé à réfléchir aux usages et qu'on est rentré, tu vois. Donc, une fois après qu'on avait identifié qu'il y avait un vrai besoin sur ce sujet-là et que c'était le bon moment pour y aller, une fois que tu l'as en tête, tu peux pas te dire j'attends 2 ans pour le faire.
Ça devient une obsession.
Ouais, exactement. Ça devient une obsession, tu ne penses qu'à ça, tu commences à poser, tu t'écris, tu commences à poser les choses, tu commences à en parler. Après, voilà, la machine, elle est lancée, c'est fait. Si, je te dis pas, après, si je n'avais pas eu d'idée, j'étais pas en recherche active. Alors peut-être que inconsciemment, oui, mais voilà.
Tu en as parlé à ce moment-là à d'autres entrepreneurs qui avaient réussi.
Oui. Ouais. Et notamment un de mes anciens business angels sur mon showroom. Qui me disait, alors lui qui a fait exactement ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire il a pris du temps et donc il a relancé, il s'est relancé beaucoup plus tard et il m'avait dit prépare ta sortie parce que le choc est violent.
C'est comme un sportif de haut niveau.
Presque. Ouais, il m'a dit vraiment le choc est violent. Et en fait, il avait raison. Alors tu vois, nous on enchaînait très vite, mais je t'avoue que j'étais ravie d'arriver à la fin de mon showroom. Voilà, c'était la fin de mon aventure et c'était juste génial. Mais le premier jour. C'était le premier jour du reste de ma vie, tu vois. Quand j'ai déposé mes enfants à l'école et que je suis rentrée chez moi, là, comme aujourd'hui, tu vois, je sais pas quelle heure il est, voilà, tu vois, 9h. Et je me suis posée, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai eu une espèce d'angoisse qui est montée et je me suis dit, c'est pas ma vie. Et tu vois, c'est pas ma vie. Et quand tu vois que ton téléphone ne sonne plus, que tu reçois plus de mails.
Du jour au lendemain, ça s'arrête.
Mais oui, du jour au lendemain, ça s'arrête. Et tu te dis, waouh. C'est vrai que c'est violent en fait pour un entrepreneur et voilà et donc du coup on s'est relancé très rapidement.
Et t'as quand même fait une ou deux choses.
Ouais, je suis partie en vacances, je suis partie avec tous mes potes parce que voilà on avait dit qu'avec Chloé que voilà une fois qu'on vendrait la boîte on avait invité tout le monde en vacances. C'était génial parce que voilà, parce que souvent tu te dis ouais tout l'argent que j'ai gagné il va me servir à quoi. Ouais. Et moi du coup j'adore faire la fête, on a une très bonne bande de potes et on aime voyager et voilà du coup voilà, profiter avec ta famille, profiter avec tes proches, voilà, c'est vraiment ce que ça m'a permis de faire et du coup on a bien rigolé et en même temps la phase de démarrage de mes docteurs on l'a pris mais c'était beaucoup plus léger pour le coup parce que je savais exactement ce que j'avais à faire, ce qu'il fallait qu'on fasse, je savais ça a été plus facile en fait de lancer mes docteurs et du coup voilà j'avais quand même plus de temps que sur mon showroom sur la phase de démarrage où j'avançais à l'aveugle, hein. Je savais pas trop, tu vois, l'entrepreneuriat, j'avais jamais monté de boîte.
T'avais 25 ans, c'est ça?
J'avais 25 ans sur mon showroom. Voilà, du coup, mon showroom, on est parti un peu dans tous les sens, quoi.
Ouais, et le contexte était différent aussi.
Le contexte était complètement différent.
C'est-à-dire qu'à 25 ans, quand tu montes mon showroom, comment te regardent les gens, tes parents, tout ça, est-ce que...
Alors, quand moi, j'étais en poste, je bossais depuis 2 ans à l'Institut Manuel-Littéran à Marseille, ouais. qui est une association qui aide les jeunes créateurs de mode. Mmh. Donc voilà, j'étais chargée de com pour eux, c'était génial, mais je tournais en rond... au bout de 2 ans. Et Chloé, elle préparait une thèse sur justement l'atmosphère des sites marchands.
D'accord.
Et du coup, moi, je lui ai dit, oui, j'en ai un peu marre. Et je voudrais ouvrir des boutiques de créateurs français à l'étranger. Ben, tu vois, je me voyais bien faire ça. Et elle me dit, mais si on le fait, il faut le faire sur Internet. Et à l'époque, elle étudiait vente privée. Mmh. Et elle me dit, regarde, vente privée, finalement, ce qu'ils font, je crois pas qu'on pourrait faire mieux. Et tu vois, du haut de nos 24 ans, parce que la réflexion était à 24 ans, on s'est dit, mais carrément, on peut vraiment faire mieux. Donc du coup, au début, on voulait vraiment faire un concurrent de vente privée. Ouais. Donc on a un peu creusé et tout. En fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient, déjà, ils étaient très avancés. Ouais. Ils faisaient très bien leur boulot. Et au-delà de ça, et voilà, ils avaient énormément de concurrents. Mmh. Et du coup, on s'est dit qu'au lieu de créer le Xème concurrent de vente privée, on allait carrément prendre le contre-pied et vendre des collections en cours et pas des collections antérieures. Et franchement, voilà, donner accès à la mode des magazines féminins, donner accès, apporter la mode à portée de clic, tu vois, aux filles qui suivent les magazines féminins. Il n'y avait personne en France qui le faisait. Et donc, on a été les premiers en 2006 à proposer des collections en cours des marques. Et donc, mon entourage, quand donc je leur ai annoncé que je démissionnais et Chloé qu'elle a arrêté sa thèse, moi, mon entourage, tout le monde nous a pris pour des fous. Enfin, si tu veux, t'as pas beaucoup de soutien, tu vois, quand tu montes une entreprise, tout le monde me dit, ah bon, alors, ma famille, tu vois, ma grand-mère m'a dit, oh, mais là, t'as un CDI, tu vois, c'est le Graal, t'as un CDI et tu as monté une entreprise. Et en plus, dans la mode, avec ta meilleure amie, enfin, mais même nos potes, tu vois, ils me disaient, c'est chaud,
c'est pas sérieux.
Vous allez vous disputer avec Chloé, c'est pas possible.
Vous connaissez depuis combien de temps?
On se connaissait déjà depuis 10 ans, tu vois, on était inséparables. Elle me disait, mais c'est la plus mauvaise idée que vous ayez. Et il n'y a que nos maris qui croyaient en nous, ou qui nous ont fait croire qu'ils croyaient en nous, en tout cas. Du coup, c'était nos seuls soutiens. Mais en fait, tu vois, je te dis ça avec le recul, mais sur le coup, déjà, d'un, tu réfléchis pas trop, parce qu'une fois que, voilà, toutes les deux, on était d'accord, on était déterminés, on avait vraiment envie de tenter la chose. De toute façon, on perdait pas grand-chose non plus. Parce que bon, moi, j'avais un CDI, mais j'avais pas non plus un salaire de dingue, ouais. Tu vois. C'était au tout début de ma carrière. Chloé, elle, carrément, elle a arrêté sa thèse. Donc, de toute façon, entre rien et rien, elle perdait rien. Hein. Et du coup, puis on n'a pas réfléchi 100 ans, quoi. On est allé, voilà, je te dis, au début, on a creusé sur vente privée, on a vu que ça marchait pas. Tu vois, on a avancé. Ben, en fait, on avait déjà, on le savait pas, mais on avait vraiment ce fonctionnement start-up où on a itéré, pivoté et tout.
À l'époque, il n'y avait pas ces mots-là.
Mais non, pas du tout. Pas du tout. Mais même une start-up, même nous, on savait pas qu'on crée une start-up. On avait envie de bosser ensemble, on avait envie de faire de la mode. Et voilà.
Et vous étiez deux femmes.
Ouais.
Pas parisienne dans le sens pas basée à Paris, donc pas d'accès aux capitaux facilement. Vous cumuliez un petit peu les...
Complètement. Ouais. Je dis tout le temps, on a cumulé toutes les difficultés. On était jeunes, on avait 25 ans, pas d'expérience entrepreneuriale. Même notre univers familial n'est pas dans ce secteur-là. On était en province, deux filles, des copines qui se lancent dans la mode, donc le pire cliché, tu vois. Et c'est vrai qu'au départ, on ne nous prenait pas vraiment au sérieux.
Tu te souviens de certains rendez-vous qui ont été un peu chauds quand même?
Je me souviens en fait quand on s'est lancé, donc on s'est lancé avec nos propres financements, parce que voilà, on avait identifié, il nous fallait 56 000 euros à l'époque. On a lancé mon showroom avec 56 000 euros, on a vendu nos voitures, on a mis toutes nos économies. Moi, j'ai fait un petit prêt à la conso en plus pour boucler le tour, et on a eu un prêt d'honneur de la ville de Marseille. Et on a lancé en septembre 2006. Et ça allait très vite, en fait. On a eu du succès immédiatement. La presse s'est vachement fait écho de l'ouverture du site, donc ça nous a porté. Et donc, très rapidement, on était à court de stock, donc il nous fallait de l'argent pour aller plus vite, pour acheter plus de stock et tout. Et du coup, bah, avec Chloé, on s'est dit, on va aller à la banque. Quand t'as besoin d'argent, en fait, tu vas à la banque. Donc du coup, je me souviens d'un rendez-vous, et je le dis avec la Société Générale. Et le mec nous a reçus. Et si tu veux, je me souviens, il s'est mis au fond de son fauteuil, tu vois. Et,
confortable.
Et il a ri. Il s'est mis à rire. Et il a dit, parce que justement, c'était le cliché. Ouais. Et il a dit, ah oui, vous faites partie de ceux qui inventent des concepts. Et là, avec lui, on s'est regardé, donc on a compris qu'on n'aurait jamais d'argent de la banque, parce qu'après, il nous a expliqué que ce n'était pas son rôle de financer ce type de projet. Mm-hmm. Et voilà, c'est vrai que ça nous a marqué, tu vois, ce coup de... Il a tellement ri, et on était tellement mal à l'aise en face de lui, parce qu'il nous prenait vraiment tellement pas au sérieux, quoi. Tu vois, et c'était assez horrible, en fait. Et voilà, du coup, je
ne l'ai... Il faudrait le voir pour faire finance.
Ouais, des fois, je me dis, mais en fait, voilà, ça, c'est... Tu vois, le kiff de te dire, bah oui, mais alors, vous voyez, le concept, finalement, il n'a pas trop mal fonctionné. Et donc ça, ouais, ça nous avait marqué. Mmh. Et quelques semaines après, en fait, on est allé... tu vois, on était tellement externe à tout ça. Et puis, l'écosystème digital startup n'existait pas. Il y avait une journée qui était organisée à la Chambre de commerce et d'industrie à Marseille, qui était organisée par France Angel, sur les Business Angels. Mais moi, à l'époque... J'avais entendu parler, tu vois, de business angel, de capital risque.
C'était pas répandu comme
idée. Mais c'était pas répandu. Et puis, je pensais que c'était vraiment lié à la techno. Mmh. Tu vois, je pensais qu'il y avait que les boîtes qui faisaient de la R&D, qui pouvaient être financées comme ça. Et du coup, on a rencontré le Provence Business Angel, qui est donc l'association locale de Business Angel, venait de se créer. Et donc, lors de cette journée-là, on rencontre le président. Et nous, on lui dit avec lui, voilà, on a lancé ça, ça marche bien, mais je sais pas, alors, on sait pas si vous financez ce type de projet. Et il nous a dit, mais au contraire, on cherche des projets comme les vôtres qui sortent un peu de ce qu'on voit. Venez nous voir. Deux semaines après, il y avait une présentation chez PBA. Et on est allé pitcher pour la première fois. C'était la première fois où on pitchait notre boîte. On l'avait jamais fait, tu vois.
Après l'avoir lancé.
Mais c'était génial, tu vois. Ouais. Et du coup, on a pitché mon showroom. Et là, bah, du coup, il y a pas mal de business angels qui se sont manifestés. Mmh. Et on a choisi 4 business angels. Il y en avait un qui avait vendu sa boîte, qui faisait de la pub online, qui avait revendu sa boîte pas mal et du coup qui nous a accompagnés. 2 logisticiens. Mmh. Donc ça, c'était génial pour nous parce qu'on avait un fort sujet logistique. On avait la logistique en interne à l'époque. Et un gars qui avait un profil plus financier qui nous a aussi accompagné. Donc du coup pour nous c'était le Graal. Ils nous ont donné 200 000 euros et du coup ils nous ont aidés, ils nous ont pas mal accompagnés sur ça. Mais tu vois, c'était, on découvrait ce qu'était un business angel en fait.
Ouais. Et tu parles de logistique, et c'est un peu le mythe de la Silicon Valley. Des startups qui se créent dans des garages, mais vous, c'est ça, vous
alors
avez
nous,
démarré dans un garage.
Ah mais nous, c'était exactement ça. Alors avec Chloé, au-delà d'être copine et associée, on habitait dans le même immeuble. Elle était au premier étage et moi au cinquième. Et du coup, pour mettre le stock, on avait loué des box, tu sais, là où tu mets tes garde-meubles. Ouais. Donc on avait loué un box et donc le stock était là et on bossait soit chez l'une soit chez l'autre puisque comme on était dans le même immeuble c'était très pratique.
Vous étiez que toutes les deux ?
On était que toutes les deux et donc tous les jours, une sur deux, on allait faire les colis pendant que l'autre, on faisait tout, tu vois. Mmh. Chloé, elle faisait le service client, moi je faisais la compta. Je me souviens que j'ai pleuré vraiment au vrai sens du terme devant Ciel Compta parce que je ne comprenais rien à la comptabilité. Et donc, je faisais moi-même la comptabilité, c'était horrible. Donc, si tu veux, on a tout fait. Mais c'est la raison pour laquelle aussi, je pense que ça s'est aussi bien passé parce que on a vraiment, voilà, on a démarré. On a fait tous les métiers et on connaissait par cœur toute la chaîne chez mon showroom. Et quand on a fait notre première levée de fonds, on a recruté nos premiers collaborateurs. Mmh. Et je me souviens, donc, mon premier collaborateur, il s'appelait Johan, c'était un graphiste. Mmh. Et donc, je lui ai fait passer l'entretien chez moi, dans mon appart. Et après, on a demandé au logisticien, mais écoute, en fait, donc, envoyer les colis, tu vois, ça a augmenté. Et puis, avant, on y allait un jour sur deux faire les colis. Et puis, finalement, on y allait tous les jours. Tu vois, il fallait, on lui a dit, t'as pas un petit bureau pour nous où on pourrait se mettre? Du coup, il avait une pièce qui était assez pourrie, d'ailleurs. Et il nous a dit, écoutez, j'ai cette pièce, mais la condition, c'est la pièce du chat. Donc, la condition, c'est que vous gardiez le chat. Et Chloé est allergique au chat. Et on lui a dit OK. Donc, c'était assez mythique. Donc, on a aménagé cette pièce. Et donc, on avait nos bureaux à côté du stock. Et c'était nos premiers bureaux. Et après, on a déménagé 1000 fois. Ouais. Mais du coup, c'est comme ça qu'on a commencé.
Et à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut qu'on s'installe à Paris. C'est essentiel.
Sur mon showroom, jamais.
Jamais.
Non. D'accord. Sur mes docteurs, j'ai les deux bureaux. On a les bureaux, un bureau dans le sud de la France et un bureau à Paris. Sur mon showroom, on a toujours eu les bureaux dans le sud de la France. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles mon showroom a été successful. Parce que pour 1000 raisons, déjà parce que monter une boîte en province, ça coûte beaucoup moins cher que de la monter à Paris. Les devs, les prix, enfin les salaires au global ne sont pas du tout les mêmes, donc sur nos fonctions clés en plus, tu vois, sur les devs, le marketing, etc. On a pu recruter des gars qui avaient un profil senior, qui avaient une super expérience à Paris, qui voulaient redescendre dans le sud. Ah, tu vois, ils avaient, je sais pas, t'as 35. Alors, nous, à l'époque, 35 ans, c'était vieux. Alors maintenant, comme j'ai 37, je me dis qu'ils étaient jeunes. Mais à l'époque, on recrutait des mecs qui avaient 35 ans. On avait l'impression on avait une vieille équipe. Non, on était tellement jeunes que du coup, à 35 ans, ça nous paraissait vieux. Et du coup, on a pu recruter des mecs entre 35 et 40 qui avaient une famille, qui avaient eu leur première expérience à Paris et voilà, qui se disaient ce serait cool de redescendre dans le sud. Donc, on a réussi à récupérer des super profils qui ont fait des efforts sur leur salaire. Et les loyers ne sont pas les mêmes. Et nous, dans la mode, on était quand même très éloignés de tout ce parisianisme dans la mode, de l'entre-soi et voilà. Et où t'es pas sollicité tous les jours pour faire des events, pour machin. Et en fait, je pense que ça nous a préservé. Mmh. Ça nous a permis de garder aussi la tête froide et d'avancer. Et du coup, l'équipe, elle était hyper focus sur le boulot. Et on avait tellement de boulot. Et du coup, je pense que vraiment, ça a été un des points positifs. Alors, oui. Par contre, sur la partie marketing et achat, clairement, on faisait tout... Enfin, tu vois, on était tout le temps à Paris. Oui. Mais on n'était pas basé à Paris. Donc, si tu veux, j'optimisais mon temps. On avait des rendez-vous de fou. Tu vois, je prenais le premier TGV, j'enchaînais tous mes rendez-vous. Jusqu'au soir tard, on s'en foutait. Et on enchaînait comme ça plusieurs jours. Mais c'est pas grave. Après, on redescendait. Mmh. Parce que nous, chez nous, à Marseille, on dit ça. On redescend à Marseille. et du coup, voilà, je pense que ça nous a vraiment aidés.
D'accord. Et tu disais que vous n'aviez pas du tout de profil tech. En revanche, votre boîte, c'était clairement, il y avait un vrai besoin de technologie. Comment tu recrutes des devs et autres sans te planter quand tu n'es pas du tout issu de ce milieu-là?
Ben, en fait, tu te plantes. mais c'est pas grave, tu apprends. Nous, effectivement, avec Chloé, personne, enfin, on ne savait pas du tout coder. Mmh. On savait ce qu'on voulait. On avait visualisé ce qu'on voulait en produit final. Tu vois. Donc, on avait plus une approche graphique que vraiment un tech. Mmh. Du coup, il fallait qu'on recrute un tech et on n'avait pas beaucoup d'argent en plus, tu vois. Mmh. Parce que pour nous, ce qui était plus important d'acheter du stock que de payer le site. Ce qui est fou, parce que sans site, tu peux pas vendre. Mais à l'époque, vraiment, on voyait pas du tout l'importance de la techno. Et du coup, après, on a posé des questions. Et en fait, autour de toi, t'as toujours des copains à toi, qui ont des copains ingé ou qui ont des copains qui... Et voilà. Et par connaissance, du coup, on a trouvé un freelance qui bossait en agence et qui nous a fait le site à côté, un petit boulot, tu vois. Et du coup, il nous a développé notre premier site. Et là, ça a été... Mais c'était une vraie aventure, puisque du coup... On était vraiment... comme on voulait lancer en septembre le site, parce que dans la mode, il y a une saisonnalité. Mmh. Donc, il fallait vraiment qu'on démarre sur la saison hiver. Donc, 1er septembre, il fallait qu'on soit ouvert. Le gars, il avait un rétro-planning qui était ultra précis. Et en fait, comme il bossait et qu'il bossait pour nous que le soir et le week-end, et un jour, il nous a plus répondu. Et on voyait c'était horrible. Et là, je me disais, putain, le mec, il nous répond plus. Comment on fait? On le harcelait. Et en fait, il habitait à Toulon. Et en fait, avec Chloé, d'un coup, on était tellement énervés. On a pris notre voiture, on est allé à Toulon, on est allé taper chez lui, quoi. On est allé chez lui. Je me dis, des fois, on a été un peu folle. Et en fait, oui, c'était une période où il était ultra chargé, donc il nous répondait plus. Et du coup, on était chez lui, je pense qu'il a dû nous prendre pour des folles. Hein. Et du coup, on l'a forcé, tu vois. On l'a enfermé, non, c'est pas vrai. Mais pour le coup, on lui a dit, non, mais là, vraiment, on a besoin de toi. Parce que là, pour le coup, tu vois, on était ultra dépendant de lui. Mais il nous a fait un prix, tu vois. Nous, le premier site Monchamp, il m'a coûté 5000 euros.
Ah, effectivement.
Donc, et il faisait le dev plus le graphisme. Donc, c'était cadeau.
Ouais.
Donc, mais du coup, tu vois, tu te rends compte aussi que quand c'est cadeau et que c'est un peu un fonctionnement comme ça, bah, du coup, c'est difficile de mettre la pression, d'obtenir ce que tu veux en temps voulu. Mais finalement, il nous a rendu le site en temps voulu. Mais si tu veux, il avait développé le site en ASP. Mmh. Donc, c'était sur un langage. Mais on s'est vite rendu compte qu'on aurait du mal à recruter sur ce langage-là d'autres devs. Et du coup, en fait, dès qu'on a ouvert le site, le 1er septembre 2006, on a recruté un autre dev en freelance, parce que pour le coup, après, tu rencontres de plus en plus de gens, puisque c'est ça, en fait, on a rencontré 1000 personnes, et on a rencontré un gars qui était ultra sérieux, qui avait une boîte, qui faisait ça, tu vois, c'était son job. Et en fait, il a développé le site en version PHP dès le départ. Mmh. Et au bout de, je crois, en janvier, on a switché. Donc, on a mis à la poubelle le premier site et on a switché sur une version PHP. Et on avait quand même tout le dev qui était en externe. Et le gars, il a continué à travailler en externe pendant longtemps. On a recruté en interne une première compétence dev, un junior, que lui, il pilotait à distance. Et en fait, comme c'est lui qui avait conçu le site, Tu vois, finalement, il avait toute la connaissance du site. On l'a gardé pendant très longtemps en freelance, jusqu'au jour où il était quasi à temps plein pour nous. Tu vois, il travaillait 90% de son temps pour nous. Et en fait, il a monté toute l'équipe dev pour nous. Mmh. Et un jour, il nous a dit, bon, voilà, vous avez votre équipe, vous n'avez plus besoin de moi. Il a lâché. Et donc, c'est comme ça qu'on est monté en compétences en interne, en fait.
Et tu te souviens de bugs un peu mémorables ou de moments... parce que la trajectoire de mon showroom est quand même hyper ascendante. On ne voit pas trop d'accidents majeurs.
Alors, il n'y a pas eu d'accidents majeurs. Les grosses périodes de stress étaient sur les périodes de soldes. Mm-hmm. Tu vois, parce que du coup, tu te prenais une charge tellement énorme le matin des soldes. On faisait un x10 en chiffre d'affaires en quelques heures. C'était vraiment fou. Donc déjà, je mettais une pression de dingue à mon hébergeur. Je pense que pareil, tu vois, il faut être déterminé quand tu es chef d'entreprise. Et je pense que ça, c'est une de mes qualités première. Parce que je peux être harcelante et déterminée. Donc clairement, je mettais une telle pression que je pense qu'il pensait qu'il jouait sa vie, tu vois, sur le truc. Et un jour, donc j'avais une interview radio. Je ne me souviens plus avec quelle radio. Le matin des soldes. Donc j'intervenais très tôt. Et le matin des soldes, toute l'équipe venait très tôt. Donc on avait rendez-vous à 6h du mat. Mmh. Et moi, j'étais au bureau, il était 5h30. Et la tradition, c'est que j'apportais le petit-déj. Moi, en plus, je suis très superstitieuse. Donc j'ai toujours des petits rituels comme ça. Et on faisait toujours la même chose. Je me souviens, j'avais des phrases avec mon lead dev. La veille des soldes, je lui disais, ça va tenir. Et il me disait, ouais, ça va tenir. Tu mets ta main à couper? Ouais, je m'en avais coupé. Ok. Mais tu vois, il fallait que j'entende, en fait. Bon, et ce matin-là, donc, j'avais une interview radio. Et donc, je suis en direct à la radio, tu vois. Donc là, j'arrive, tu vois, j'allume le bureau et j'étais à la bourre. J'allume le bureau, j'allume mon ordi. Donc, pendant que j'avais l'interview au téléphone, donc, j'ouvre mon ordi, je me connecte. Et donc, le gars, il commence à me poser des questions. Il fallait quand même que je sois focus sur les questions du journaliste. Et là, il me pose la question. Et vous n'avez jamais connu de bug informatique? Et là, je lui dis non, jamais. Et en fait, j'arrive pas à me connecter à mon showroom, tu vois. Et là, je me dis merde, Internet ne marche pas au bureau. Putain, la loose, tu vois, le jour des soldes et tout. Donc là, je sors ma clé 3G. À l'époque, j'avais ma clé 3G. Donc, tout en étant concentré. Et là, en fait, je me rends compte que c'est le site qui est down. Tout Internet fonctionne, mais mon showroom est down. Et il était 6h moins le quart et les soldes ouvraient à 8h. Donc là, clairement, je pense que j'ai abrégé l'interview, j'étais pas bien. J'envoyais des SMS en même temps à mon directeur technique qui était sur la route en disant « Dépêche-toi, on est dans la merde et tout ». C'était l'horreur. Donc là, je raccroche, j'appelle mon hébergeur. Il me dit « J'ai un problème au data center ». Et là, je lui dis « Je veux que tu me remontes en premier, tu me remontes le site en premier ». Il me dit « Je te promets, tu seras remonté en premier ». Mais j'étais en folie et il nous a remonté très vite. On a été le premier site du data center à être remonté. Je me disais, et je lui disais, je ne peux pas ne pas avoir de site le premier jour des soldes. Et c'était une espèce de pression. Et là, l'équipe arrivait. Donc là, déjà, ils m'entendaient hurler dans le bureau. J'étais en folie. Je faisais des 100 pas. Mais en plus, tu te sens tellement inutile. Et je ne pouvais rien faire, tu vois. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment le gros, gros stress.
T'as jamais eu d'autres expériences comme ça ou...
On a toujours, ouais. On a eu des petits bugs, tu vois, c'est toujours sur les soldes, parce qu'on avait une espèce de chrono, ouais. Et la fois d'après, on avait un compte à rebours qui lançait les soldes. Et en fait, donc, compte à rebours, 4, 3, 2, 1, et là, le chrono, la page ne s'actualise pas et le chrono part à l'envers. Bon, enfin voilà, donc ça c'était hyper. Donc là, pareil, tu vois, on avait un open space, j'étais à l'autre bout d'un coup, et le gars qui s'en occupait, il s'appelait Jérémy, je suis comme ça, Jérémy! Donc là, il me dit, oh, ils étaient tous en panique, mais voilà, ça a duré 2 secondes. Donc des petits bugs techniques, quand on a migré de version, bah, t'as toujours des problèmes techniques. Et après, des gros stress chez mon showroom, on en a effectivement eu. Alors après, avec le recul, tu gardes que les bons côtés. Mais des gros stress, en général, sur une boîte, ça tourne toujours autour de l'argent.
Ouais.
Ouais. Et un des plus gros stress, c'était juste avant notre levée de fonds, là, quand on a levé 4 un peu plus de 4 millions, ouais, auprès de Alven et Omnes. Mm-hmm. Donc après les Business Angels. Et là, j'étais short cash. En fait, je savais que j'avais mon mur de cash. La levée, elle était bien timée, mais j'étais short cash. Et on avait la term sheet et on était vraiment en audit. On finalisait la doc. Vraiment, on allait signer. Mais un mois après, j'avais plus de cash du tout.
Les investisseurs étaient au courant de ça?
Les investisseurs le savaient. Donc, c'est vrai qu'on a accéléré le process, mais tu vois, j'étais short cash, mais j'étais pas dans une situation non plus cata. Mais j'avais plus de cash pour payer les salaires. Et là, c'est l'horreur.
Le stress.
Ouais, là, c'est le stress. Ouais. Là, c'est le stress parce que, pour le coup, je me sentais responsable de mon... Ben, pour le coup, oui, t'es responsable de ton... On était une quinzaine.
Ouais.
Ouais, on était 12 ou un peu moins d'une quinzaine. Mais du coup, enfin, tu vois...
Tu leur as dit ?
Ben non, je l'ai pas dit. Parce que je... Parce que déjà, c'était une période... C'est une période de stress, la levée de fond, parce que, en plus... Tu vois, ils savaient pas ce qu'était une levée de fonds. Alors, on leur avait expliqué qu'on était en levée de fonds, qu'on allait avoir plus d'argent et donc plus de moyens. Donc, je pouvais pas leur dire qu'on allait avoir plus de moyens, mais qu'en même temps, là, on était plus qu'à la rue, quoi. Donc, du coup, je voulais pas mettre du stress dans l'équipe parce que dans une start-up, t'as besoin de rester focus et en même temps, il fallait qu'on délivre. Tu vois, toutes ces phases où tu lèves des fonds, même pendant la vente et tout, il faut, moi personnellement, j'étais décorrélée de l'opérationnel, mais l'opérationnel, il faut que la boîte elle délivre, c'est la base. Tu vois, il faut que ça continue d'avancer. Donc je voulais pas leur dire, et donc du coup, putain, j'étais mal. Donc j'ai appelé la banque, toujours la banque. J'ai un vrai sujet avec la banque. Je n'étais plus à la Société Générale, j'étais dans une autre banque, et je lui dis, est-ce que je peux avoir une ligne de trésor? Et je lui envoie la term sheet. Tu vois, il y avait 4,5 millions qui allaient arriver. C'était sûr. Et le gars il m'a dit, mais non, impossible. Parce que. Il voulait pas m'ouvrir une ligne de trésor. C'était pas bon. Il m'a dit non.
Il préférait une cessation de paiement, quoi.
Ouais. J'ai dit, mais c'est une blague. Non, je peux rien faire pour vous. Le mec, il avait été tellement désagréable. Il m'a dit non. Puis en plus, le process pour accepter la ligne de crédit, c'était hyper long. Enfin, il voulait pas faire d'effort. J'ai dit, mais vous vous rendez bien compte que le mois prochain, je change de banque. Et en fait, je pense qu'il croyait pas trop, tu vois, cette histoire de 4 millions. Bon, bref. Et du coup, là, on a décidé, on a arrêté de payer les fournisseurs, tu vois, on a écarté, enfin, on a étalé les paiements au maximum. Ouais. Et j'ai décidé pendant quelques jours, maintenant je peux le dire parce que c'était il y a longtemps quand même, on a plus remboursé nos clients. Parce qu'il fallait que je trouve une solution court terme, tu vois.
D'accord, ouais.
Donc, je me disais, alors que nous, on avait des remboursements immédiats, tu vois. Ouais. Je me disais, bon, c'est pas grave, tu vois, je peux décaler une semaine, voilà. Et du coup, on a étalant les paiements, en reculant les remboursements, vraiment, en faisant vraiment ce qui était, excuse-moi, urgent. On a pu comme ça attendre que le cash arrive à la banque. Mais là, tu passes vraiment des très mauvaises nuits. J'ai tout envisagé. Je me disais, mais à qui je peux demander de l'argent autour de moi pour mettre en compte courant et pour vraiment passer cette période, en fait. C'était horrible. J'ai un très mauvais souvenir de cette époque.
Tu te sens seule, non ?
Mais tu te sens tellement seule. Et parce qu'après, mais même avec... Alors déjà, heureusement que tu vois, t'es deux, parce que du coup, tu peux un peu partager ton stress. Mais c'est horrible.
Et mon showroom était rentable, en plus, à l'époque.
Mon showroom était rentable. Ouais. Mais le gars, il voulait rien savoir. Il a pas voulu nous donner de ligne de crédit. Et c'est vrai que, comme on n'avait jamais eu de sujet de cash, et qu'on était rentable et que ça roulait, j'avais jamais négocié une ligne de crédit, tu vois, en me disant, mais peut-être qu'un jour... J'en aurais besoin.
Aujourd'hui, tu te prémunis de ça ?
Ouais, tout le temps. C'était un tel traumatisme que même quand on avait beaucoup de cash et qu'on était rentable, enfin tout le temps, je demandais tout le temps et même il me disait et au prochain bilan on pourra faire plus et c'est systématique. Dès qu'on passait le bilan, je faisais comme ça. Bon, on pourrait peut-être augmenter la ligne de crédit. Je pense que je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, j'avais à la fin, j'avais plus d'1 million d'euros de ligne de trésor. Hein. Puisque j'étais traumatisée de la ligne de trésor. Voilà. Donc, du coup, maintenant, j'espère que ça ne m'arrivera plus. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est là où tu te dis que.
Ça tient.
Ouais, ça tient à pas grand chose. Et en plus, et c'est là où tu te. Et à l'époque, en plus, parce que aujourd'hui, quand même, c'est un peu à la mode d'avoir une start-up. Même un banquier, peut-être qu'il va être fier d'accompagner une start-up. Maintenant. Et d'ailleurs, tu vois, t'as des pubs, même à la télé, où ils sont là pour accompagner les entrepreneurs et les start-upers. Mais à l'époque, c'était pas vraiment à la mode, en fait. C'était très risqué pour eux. Puis, ils avaient ce mauvais souvenir de la bulle, du fait que les start-upers en étaient jeunes et pas sérieux.
Ouais, c'était
pas
récent, finalement, à cette époque-là, ouais.
Mais ça allait. Moi, je vois, tu vois, on a commencé en 2006, et donc ça fait 12 ans, parce que je dis tout le temps, ça fait 10 ans, mais comme je dis, ça fait 12 ans, hein, on vieillit, hein. Et en 12 ans, ça a tellement changé. Et voilà, nous, on était tellement seuls et on ne savait pas où on allait. Et aujourd'hui, je vois que tout l'écosystème est structuré, accompagné. Tu vois, c'est fou comme ça, comme les choses ont changé en très peu de temps. Et c'est génial, je trouve que c'est formidable.
Et au moment où... donc, c'est le groupe Casino qui rachète, en premier temps 49%, c'est ça ?
Ouais.
Qui rachète les parts d'Alven.
Et ils sortent Alven et Omnes.
Ouais. Ils sortent Alven et Omnes. C'est aussi le moment où des gros sites, notamment à l'étranger, Asos et d'autres, s'implantent en France, et avec des moyens, des gros moyens. Moi, je me souviens, pour la petite anecdote, d'avoir visité les locaux d'Asos vers 2010.
Ouais.
à Londres. C'est délirant, quoi.
Ouais.
Et tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis pas le complexe du petit français, mince, nous, on n'a pas assez de moyens, quoi.
Ouais.
On n'a pas assez de moyens pour aller chercher ça.
Ouais, justement, c'était exactement ça, si tu veux. On avait tout se passait très bien chez mon chambre. Même on a été les premiers en France à travailler sur le principe des collections en cours des marques. On a été vite rattrapés, on n'est pas resté seuls très longtemps. Et on a eu des gros acteurs, tu vois. Je me souviens à l'époque, il y avait le groupe PPR, qui avait Rush Collection, qui faisait du déstockage et qui a pivoté pour faire de la collection en cours. Et du coup, nous, on se disait, putain, tu te rends compte, on va avoir PPR en face de nous, ils vont nous tuer. Après, on a eu Espace Max, qui était un gros site aussi de vente événementielle, qui a pivoté sur de la collection en cours. Pareil, à chaque fois, on se disait, waouh, on a des gros en face. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de morts sur la route. Et alors peut-être que nous, on avait la prime du premier entrant. Et en même temps, on était très bons sur notre marché. On avait des bonnes marques. Et voilà, je pense qu'on avait une très bonne exécution. Donc, on continue d'avancer. Donc, si tu vois, on n'avait jamais été trop gênés par la concurrence. Et parce que c'était de la concurrence française. Et après, quand d'un coup, on s'est dit, waouh, il y a des gros acteurs étrangers. Asos, pareil. Tu vois, Asos, en plus, on l'avait en ligne de mire dès le début, puisqu'on s'était inspiré d'eux pour ouvrir mon chambre. Quand on a ouvert, ils étaient déjà très gros. Nous aussi, on était allés visiter leurs locaux, puisque sur la phase de démarrage, en fait, j'avais écrit au CEO d'Asos à l'époque, en lui disant qu'on était souvent sur Londres et que je serais ravie de le rencontrer pour pouvoir échanger. Tu vois, comme quoi.
Mais on lui disait, on veut faire la même chose.
Mais oui, mais en fait, si tu veux, moi, on a toujours fonctionné comme ça. En fait, avec Londres, on a rencontré beaucoup de monde et on se trouvait que, tu vois, dans l'échange, on apprenait beaucoup. Et Asos, pour nous, c'était notre modèle, c'était le Graal. Et je me suis dit, écoute, de toute façon, ça ne nous coûte rien de le contacter. Au pire, il nous dit non, et au mieux, il nous reçoit, et ce sera génial. Et en fait, je lui ai envoyé un mail, et il m'a répondu immédiatement, en me disant, salut Séverine, il m'a dit, la prochaine fois que tu es à Londres, passe me voir, avec plaisir, je te recevrai. Et du coup, avec Chloé, nous voilà débarqués à Londres, au siège d'Asos, à la pêche aux infos, tu vois. Et le gars, il a été génial. C'est ça qui est bien aussi dans notre écosystème. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tes aînés, ils sont vachement dans le partage, en fait. Alors, des fois, t'oses pas. Tu vois, tu te dis, mais jamais je.
Tu te censures.
Oui, tu te dis, je peux pas appeler le CEO d'Asos. Ouais. Il va me prendre pour une folle. J'ai fait pareil avec Jacques-Antoine Grandjean, tu vois. Et je me dis, jamais le mec, il va prendre 5 minutes pour te répondre. Et en fait, oui, je les ai tous rencontrés et j'ai beaucoup appris. Et en fait, dans notre écosystème, on échange beaucoup entre nous. Et je trouve que c'est ça qui est assez génial.
Et tu te souviens de petits conseils qu'ils t'auraient donné ou au contraire de désencouragement?
Non, mais par contre, ce qui était très encourageant pour le coup, à chaque fois, par exemple, alors je parle d'Asos parce que c'était vraiment significatif, ou vente privée parce que pareil, tu vois, c'était pour moi ce qu'a fait Jacques-Antoine, c'est juste énorme. Et à chaque fois, ils nous ont dit qu'ils nous avaient identifiés sur le marché français. Alors, tu vois, Asos, on venait à peine de se lancer, ça faisait quelques mois qu'on existait. Il nous a dit oui, on a regardé, vraiment, c'est bien ce que vous faites, hein, bravo. Waouh. Ok, le mec, il nous connaît, il sait ce qu'on fait. Et pour vendre privé, pareil. Quand ils nous ont dit, c'est génial, bravo. Enfin, tu vois, du coup, c'est hyper encourageant. Du coup, tu te dis, waouh, t'avances, ça t'encourage. Et après, c'est des conseils plus opérationnels, puis c'est de l'échange. Voilà, tu vois, Asos, ce qui était bien, c'est qu'on a vu fonctionner leur studio photo. Ouais. Et pour nous, c'était un vrai sujet. Donc voilà, après, tu te dis, ah ouais, tu te souviens quand on était chez Asos, on a vu, ils faisaient comme ça, hop, et du coup, tu peux mettre en place certains trucs. Après, ils vont pas te révéler les clés du succès, mais quand même, c'est sympa. Mais même, tu vois, sur le déploiement international, on a discuté avec eux. Donc du coup, tout ça pour dire qu'Asos, on les avait bien identifiés quand on savait qu'ils étaient très puissants. Et quand on les a vus arriver en France, là, on savait que c'était sérieux, c'était pas pour rigoler. Zalando, pareil, ils arrivaient avec des moyens marketing tellement fou. Et nous, notre logique a été toujours d'être rentable. Donc si tu veux, en communication, en marketing, on travaillait vraiment sur des actions avec un retour sur investissement immédiat. On faisait pas beaucoup d'images, tu vois, il fallait qu'il y ait du résultat, il fallait que ça nous apporte du chiffre d'affaires immédiatement. Et eux, ils dépensaient tellement d'argent en télé, en radio, tu n'entendais que. Et là, on s'est dit, ok, écoute, là, on est passé à une autre étape du développement de la boîte. Donc, si on veut vraiment jouer dans la cour des grands et jouer sur le plan international, il nous faut plus d'argent pour le coup et sortir un peu de cette logique de gestion de la boîte, excuse-moi, en bon père de famille. Il nous faut plus d'argent. Donc, soit on repasse par une phase de levée de fonds, soit on s'adosse.
Et à ce moment-là, t'as eu...
Et en fait, si tu veux, c'est marrant parce que comme quoi des fois dans la vie ça s'est fait de façon assez concomitante. On a eu plusieurs groupes qui nous ont rappelé pour avec des marques d'intention. Et comme on se posait la question de la levée de fonds, mais du coup ça nous faisait sortir de notre logique. Enfin tu vois, voilà, on se posait des vraies questions. On se disait aussi que la vraie valeur de mon showroom, c'est cette croissance rentable. Il y avait très peu d'acteurs du e-commerce qui gagnaient de l'argent. Je pense d'ailleurs qu'on était les seuls de cette taille-là à gagner de l'argent. On avait quand même une croissance hyper soutenue. On aurait pu croître beaucoup plus vite en perdant de l'argent, peut-être. Mais en tout cas, c'était pas notre logique.
Vous avez 20 millions de chiffre d'affaires à cette époque.
Un peu plus, c'est ça, exactement. Mais du coup, on se disait que c'était une vraie valeur de la boîte de gagner de l'argent, parce que le modèle économique, il était prouvé. Et du coup, comme on a eu plusieurs marques d'intérêt, on s'est dit, ok, mais en fait, c'est peut-être le moment d'ouvrir le sujet. Et on a échangé avec ces groupes-là. Il y avait le groupe Casino. Et en fait, ce qui nous a vraiment intéressé dans le projet qu'apportait le groupe, c'était le fait qu'ils étaient propriétaires de Cdiscount. Et Cdiscount, à l'époque, c'était le plus gros e-commerce en français.
Amazon n'était pas là où il est aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Ils challengeaient vraiment. Tu vois, ils étaient vraiment. Et puis en plus, Cdiscount avait la même histoire que nous. C'était les frères Charles qui s'étaient adossés au groupe, qui avaient, voilà. Pour nous, l'histoire, elle était assez belle. Et on voyait bien les synergies, toutes les synergies back-office qu'on pouvait activer avec le groupe pour faire grossir mon champ. Et voilà, et du coup, ça s'est fait comme ça. Ça s'est hyper bien passé avec les équipes opérationnelles.
Et le fait de pouvoir sortir aussi Chloé et toi, c'était enfin de pouvoir cacher, comme on dit.
Effectivement, ça faisait partie de l'histoire. C'est-à-dire, c'était soit on repartait sur une phase de levée, et l'histoire a été un peu plus longue, soit là effectivement on faisait du cash out et on monétisait tout ce qu'on avait pu mettre dans cette boîte et du coup c'était
là pareil à ce moment de ce choix, est-ce que tu as des personnes qui t'ont aidé ou c'est vraiment un choix que tu fais seul?
Alors non, on avait pris une banque d'affaires qui nous accompagne dans le process, qui nous elle nous a aidé opérationnellement, on va dire, enfin voilà, dans le process. Et après, si tu veux, dans notre écosystème, comme on a rencontré beaucoup de gens, ben forcément après tu te fais ton réseau. Et moi, il y a vraiment deux potes à moi, maintenant je dis j'ai une de mes meilleures amies qui s'est mariée avec un gars qui avait monté plusieurs entreprises. Qui a pu monter plusieurs startups. Donc, ils connaissaient vraiment le même parcours que nous. Je peux le dire, c'est Emmanuel Guyot, donc qui a fondé plusieurs startups, dont Digitik. Ouais. Et du coup, Emmanuel, il a eu ce rôle de mentor tout au long de mon parcours. Et comme lui, il avait déjà vendu deux boîtes et il montait sa troisième boîte, mais du coup, il m'a vachement aidé, tu vois, parce que moi, je savais pas si c'était le bon choix, comment ça se passait, même les procès. J'avais beaucoup de questions.
Le bon prix.
Voilà, là, et du coup, pour le coup, comme on était en totale transparence, je pense que.
Elle est dure la négo au niveau du prix?
Ouais, elle est dure parce que déjà, tu sais pas où est le juste prix. Alors, il y a eu. Elle est très dure. Parce que. Non, elle est très très dure, c'est vrai, parce que. Forcément, c'est vraiment le jeu de la négo, tu vois. Et je me souviens, ma banque d'affaires, elle m'a dit, le jour où le vendeur, il est frustré, parce qu'il a l'impression de se faire avoir, et toi, t'es frustré, parce qu'aussi, il me dit, on est dans le bon prix. Si les deux parties, se sont frustrées, on est bon là, on est dans le juste. Donc c'était marrant. Et quand même, mes fonds d'investissement ont joué un rôle hyper important à cette époque-là. Donc j'avais Nicolas Seillier chez Alven et Michel Delande chez Omnes. Et si tu veux, je leur dis tout le temps, mais c'est la vérité. Alors des fois, quand je raconte l'histoire avec mes fonds, tout le monde me dit « Ah, mais c'est idyllique, tu dois pas tout dire ». Mais vraiment, ça s'est toujours très bien passé. Et sur la phase de vente, ils ont été hyper présents et ils m'ont mis dans des super conditions parce que j'étais hyper, hyper stressée. C'est une phase où t'es vraiment dans un entonnoir et... Ouais, tu te dis, il faut que j'aille au bout, quoi. Et l'opérationnel, je savais même plus ce qui se passait dans ma boîte, ni chez moi. J'étais que sur ce deal, tu vois. Mais c'est vrai, il faut vraiment en être conscient.
Hein. D'accord. Tu perds contact.
Ouais, tu perds contact et tu peux vite te perdre au pied parce que imagine la vente ne se fait pas. Le retour, je pense, à la réalité doit être très dur et le retour opérationnel aussi. Eux m'ont dit, écoute, dans tous les cas, ne prends pas de mauvaises décisions. Fais ta bonne négo. Si tu ne vas pas au bout, c'est pas grave, on est là. On refera une levée. Ne vends pas à n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition. Et si tu veux, ça m'a mis vraiment très à l'aise et ils ont négocié avec moi jusqu'au bout. Je me souviens, Michel Delande, il a vraiment fait le bad guy dans la négo. Il est allé au bout du coup, c'est vrai que j'avais l'impression j'étais pas seule en fait. Il y avait mes fonds et moi et on négociait, on avait tous le même intérêt et du coup, ça s'est hyper bien passé. Donc ça, c'était.
Tu te souviens du moment exact où tu dis bon là, ça y est. Là, c'est bon.
Ouais.
On y va.
Ouais. Sur la vente ?
Ouais.
Alors, sur la vente, oui. Ouais, on a rencontré plusieurs banques d'affaires et donc on a choisi ces transactionnaires de Rothschild qui nous accompagnaient. Ouais, une fois en fait que tu structures tout ça et que tu fais des premiers rendez-vous, on avait deux groupes qui voulaient nous racheter, donc on a fait les due deal avec les deux. Et ouais, une fois que t'es dans le process, tu te dis ouais, ça y est, en fait, je vais vraiment vendre ma boîte, tu vois. Ça y est, c'est vraiment réel, quoi.
Ouais.
C'est fou. Mais après, tant que tu es pas au bout, tu te dis c'est vraiment jusqu'au deux, ça va. Déjà, dans la vie d'un start-upper, tout va bien, tout va mal, c'est toute ta vie, en fait. C'est l'ascenseur émotionnel. Du matin au soir, tu peux passer par toutes les émotions. Et dans une vente, tout ça est très accéléré. Donc, en une heure, tout va bien, tout va mal. T'as un deal, t'as plus de deal. La condition, elle est deal breaker. T'es vraiment dans toutes tes étapes. Et plusieurs fois, je me suis dit, on va pas aller au bout, en fait.
Ouais,
je me souviens, on avait négocié un jour, on était chez Rothschild dans la salle de négo. On est resté jusqu'à 2h du mat.
En salle de négo, c'est déjà avec le terme.
Ouais, mais c'est dur.
J'imagine une salle de torture.
Ouais, c'est presque ça, je te jure. Et en fait, on était tous ensemble, donc voilà, tu négocies tous les points du pacte et tout. Et en fait, à 2h du mat, je pense qu'il était temps qu'on s'arrête, on s'est levé. Et le lendemain matin, en fait, on est rentré. Donc j'étais avec Nicolas. Il m'a dit non, mais en fait, les conditions, ça va pas, quoi. Il me dit on rentre à Marseille. Et je lui dis, ok, on rentre à Marseille. Et là, c'était horrible. Je me souviens, on était dans le TGV, et donc Casino nous appelle. Il nous dit, bon, alors, rendez-vous à telle heure. On dit, non, mais nous, on est rentré à Marseille, en fait. C'est no way. On ne veut pas ces conditions. Et mais en même temps, tu le dis, mais t'es mal, tu vois. Et après, bon, les négos ont recommencé. Mais tu vois, des fois, tu prends des décisions, mais tu ne sais pas si c'est la bonne décision, tu vois. C'était dur. Je me souviens, ce trajet à Paris-Marseille, il a été très long, quoi. Très, très long.
Et une dernière question pour boucler sur ce qu'on se disait au début. Tu me dis que voilà, tu n'as pas forcément d'idée très précise sur la suite après mes docteurs. Mais aussi bien que mes docteurs que mon showroom, ça partait d'un constat très personnel et une expérience que vous vouliez adresser avec Chloé. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes aujourd'hui dans la vie quotidienne que tu as déjà identifié et que tu dis là, non, il n'y a pas de solution qui fonctionne, on pourrait s'y attaquer?
Non, là, enfin, pas. Il y a plein de problèmes dans la vie quotidienne, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de startups qui se lancent et qui essaient de répondre à toutes ces questions-là. Moi, pour l'instant, j'ai pas identifié de sujets ou de problématiques sur lesquels je me dirais que je pourrais avoir l'envie, en tout cas, d'apporter une valeur ajoutée ou de changer un process. Et je me pose pas vraiment la question, pour être honnête, parce que déjà, je suis encore opérationnelle chez mes docteurs, et j'ai l'impression que mes envies ont changé. Et j'en parlais voilà avec des potes qui ont le même parcours que moi et peut-être que c'est la sagesse de l'âge qui fait ça, mais ouais, je sais pas si j'ai envie de piloter à nouveau une boîte, tu vois, c'est pas pareil, voilà. Donc je sais pas, parce que peut-être que c'est, ouais, je sais pas si c'est l'âge, je sais pas, mais la première boîte, je me souviens ne jamais m'être posé de questions, tu vois, genre voilà, quand on s'est lancé, j'étais déterminée, j'avais pas de doute. Voilà, on a avancé. La deuxième, pareil, parce que j'ai quand même cette détermination, c'est la raison pour laquelle je pense que je suis entrepreneur, mais j'avais plus de doutes, et j'avais plus de doutes sur moi en plus. Tu vois, je me disais,
oui,
mais ouais, ce qui est marrant, alors que tu vois, tu peux te dire, ouais, je suis plus forte, j'ai plus d'expérience, et d'un autre côté, j'ai cette peur de l'échec qui est arrivée. C'est ça qui est fou. C'est
que n'existait pas au début de mon
Pas du tout. Alors, la peur de l'échec, elle n'existait pas, et en plus, limite, je m'en foutais.
Ouais.
Mais sur la deuxième, tu vois, je dis toujours que finalement, j'ai remis mon titre en jeu. Tu vois, c'était un peu cette image-là, tu vois. Et du coup, je me suis encore plus challengée personnellement. Cette peur de l'échec, elle est lourde psychologiquement. Pour moi, en tout cas, elle a été lourde à gérer. Et du coup, ben voilà, c'est vrai que je suis... J'avais peut-être quelque chose encore à me prouver, à me prouver. Et du coup, voilà, moi, je suis hyper contente sur mes docteurs, déjà pour l'aventure entrepreneuriale, pour avoir revécu, tu vois, parce que t'es un peu en recherche de ça. Mmh. C'est un peu comme une drogue, tu vois.
Et l'adrénaline, vraiment.
Ouais, cette adrénaline, le fait de vivre à 10 000 à l'heure, mmh. le fait de remonter une équipe, mmh. de refédérer toute une équipe autour de toi, de sentir les gens qui portent le projet avec toi, c'est assez fort, en fait, ce qu'on vit avec son équipe. Bah, donc, du coup, je suis ravie d'avoir vécu ça à nouveau, d'avoir vécu en accéléré la phase de levée, la phase de vente mmh. et l'accompagnement. Voilà. Du coup... Je sais pas, je me dis que c'est cool et que maintenant je suis plus dans l'échange et dans la transmission, tu vois. Voilà. Je me dis, tout ce que les gens m'ont apporté, ben peut-être, et je sais pas, mais il y a vraiment, en toute modestie, peut-être que je peux apporter aussi mon expérience à d'autres start-upers. Et là, je vois, j'accompagne quelques start-up et tu vois, sur les phases de levée, mmh. ben ils font ce que j'ai fait avec Emmanuel. À l'harceler en lui posant 1000 questions sur les conditions du deal. Et je pense que tu as toujours besoin, en fait, d'avoir cet avis extérieur, parce que du coup, quand tu prends un avis extérieur, il est froid, mmh. il est, tu vois, il y a pas d'affect. Du coup, je pense que des fois, tu es plus juste, alors que quand tu es dans l'affect, mmh. voilà, tu es un peu faussé. Donc, du coup, je pense que c'est important aussi. Donc, on verra. Voilà. Mais peut-être que j'espère hein, me lever un jour, me dire, mais oui, bien sûr, mais ça, personne n'y a pensé, ou je peux le faire différemment et apporter quelque chose. Peut-être que ça me reprendra et je serai ravie. Hein, voilà.
Ok, histoire à suivre. Donc.
Histoire à suivre.
Merci beaucoup, Séverine.
Merci, Guillaume.
Vous venez d'écouter Take Off. Un très grand merci. Pour nous suivre et ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée. Et si vous aimez les belles histoires, allez écouter Sillage, le podcast enregistré par ma consoeur Déborah Loy. Elle y reçoit cette semaine Simon Dola, un jeune start-upper qui a dû faire face à un déréférencement de son application sur l'App Store.